1, 2, 1, 2, 1, 2, et bonjour tout le monde, bonjour. Hop là, je baisse un petit peu le gain, sinon vous allez péter un plomb. On se retrouve pour ce podcast journalier, J-29. On est donc un tout petit peu plus de 4 semaines et un jour, avant de prendre le départ à Istria, vendredi 14 avril, il sera 17h, on aura fait un gros goûter avec des tartines de Nutella et du lait chaud, bien entendu dans l'unique but de le revomir sur ses concurrents. Et J-29, eh bien, on se prépare plus ou moins bien, enfin en tout cas les entraînements sont encore là, à tout petit peu plus de 4 semaines de l'échéance, du départ. Et aujourd'hui, petit thème du podcast promis hier devant des milliers de gueux et de gueuses, pas seulement les patriotes, là aujourd'hui nous sommes entre nous, ça y est, dans notre secte communautaire. Alors comme pour Skippy, n'hésitez pas à donner plus, bien sûr, je saurai toujours quoi en faire. Hein. Surtout là avec l'actualité du moment, si vous avez peur que les banques vous sucrent vos économies, donnez-les-moi, hein. Voilà, je m'en occuperai sans problème. Alors, aujourd'hui, le thème courir sur fatigue. C'est une idée qui m'est venue parce que donc j'ai passé globalement l'hiver en pensant aux 100 miles of Istria qui allait être le premier objectif de 2023. Donc il y en aura 3. Du coup, Istria représente 33% de mon année en termes de résultats attendus. Et en cours d'hiver, nous avons changé d'avis avec le coach. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au début, on s'était dit, Istria, c'est une course où ça court beaucoup, donc on va développer les qualités de coureur et on va courir super vite. Je vais mettre 2h02 au marathon, je vais faire des coucous à Eliud Kipchoge, tout ça. Et finalement, on a changé notre fusil d'épaule. Pourquoi ? Donc j'ai démarré avec le club de l'ASX-les-Bains d'intéressants cycles de vitesse parce que j'ai fait beaucoup plus de plats et à des allures beaucoup plus rapides qu'avant. Alors ça s'est pas trop vu au niveau des progrès parce que bah, j'ai pas fait 10 000 compétitions, hein, j'ai fait un cross et un 10 km, donc bon. Mais moi sur les séances en fait j'ai parfaitement vu que j'allais plus vite. Sur certaines allures, j'ai battu mes records sur les 400, les 800, les 200, etc. Sur le nombre de répétitions, tout ça. Et fin novembre, on est arrivé à un truc assez intéressant, puisqu'après une séance, je sais plus trop ce que c'était, je crois que c'était des 800 et des 1000 mètres. C'était une séance assez longue, qui devait faire 5000 mètres à VMA quasiment. Donc en général, après ça, on s'arrête. Et en fait, le coach, ce jour-là, le coach du club, Nicolas Girard, avait particulièrement envie de s'en mettre plein la tronche. Et il nous a proposé, après la séance VMA, de faire deux fois 1500 mètres au seuil. Alors lui, bon, c'est quand même quelqu'un qui court à 30 minutes sur 10 000. Donc si tu veux, sa séance au seuil, il l'a faite à 3,10. Et puis vu que c'est un gourmand, il est descendu vers 3,05 sur son 1500 mètres. Et votre bon vieux Ferrari, tout trailer qu'il est, évidemment pensait faire le seuil tout seul. Mais finalement, j'étais pas très très loin du groupe, parce qu'ils sont partis en négatif split, tu vois, plutôt partis sur les 3,12 et finis sur les 3,08. Ce qui fait que sur cette séance, en fait, j'ai quasiment pu faire le seuil juste derrière eux, parce que le premier 1500 mètres, je l'ai fait à une allure moyenne de 3,17, ce qui m'a énormément impressionné. Surtout juste après la séance. Et le deuxième 1500 mètres, alors c'était encore plus bluffant, je l'ai fait à 3,12 de moyenne. Et quand je suis sorti de cette séance, je me suis dit, ouais, putain, j'ai vachement progressé et tout. Je me voyais déjà en héros, tu vois, descendant du char acclamé par la foule. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur le 10 km des foulées de Saint-Priest, je n'ai pas été transcendant, hein. J'ai fait 34 minutes 20. Alors que mon record était en 34 minutes 28, donc des progrès quasiment nuls. Surtout que mon record, je l'avais fait après une semaine à 22 heures, beaucoup de trail, de vélo, donc vraiment rien qui laissait suggérer un développement de la VMA extrême. Donc un peu déçu de ce 10 km en demi-teinte, je m'attendais à un 33-20, et au bout de 5 km, j'ai complètement perdu l'allure et j'ai fini en 34-20. Donc je me suis dit, mais quel a été l'intérêt de tout ce travail de vitesse? Finalement, je n'ai pas été capable de concrétiser le jour J. Donc bon, derrière, bon, je me nique les tendons du pied parce que j'avais trop serré ma chaussure avec le boa un jour. Bon, ça arrive. Et je fais du coup un très mauvais hivernal des Templiers, là, sur l'Astragale. J'explose complètement, j'étais fatigué et tout. Et là, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, finalement, toutes ces séances de piste où j'ai progressé ne m'ont pas du tout servi à être plus performant en trail. Alors certes, sur les deux premières heures de course, j'avais l'impression de me balader, mais finalement, le retour de bâton a été beaucoup plus violent qu'avant. Et je crois que c'est à peu près au même moment où j'écoutais un podcast, je crois que c'est Let's Try Podcast qui interviewait Guillaume Millet. Et bah, Guillaume Millet, sommité dans l'entraînement d'ultra-endurance, c'est un peu son job, de réfléchir à comment faire. Et puis surtout, c'est pas un troufion parce que il l'a prouvé sur lui-même en faisant une fois un podium au Tour des Géants, voilà, comme ça, là, entre deux thèses, là, il vous a posé ça. Et ce que disait Guillaume Millet, ça m'a fait tilt. Il disait que quand on arrivait très très en forme en fait sur une course, il fallait surtout pas aller plus vite au début. Il fallait garder toute son énergie, toute sa forme pour la seconde partie, voire le dernier tiers de course, parce que c'est à ce moment-là où on allait se servir de toute notre énergie, toute notre forme, de notre meilleur niveau supposé, pour contrebalancer la fatigue et à ce moment-là dévier, ralentir le moins possible. Accélérer, il y croit pas trop, mais ralentir le moins possible. Et je me suis dit, bah tiens Hugo, en fait, t'as fait un peu l'inverse. Tu t'es dit que t'avais développé tes qualités à plat, ce qui était vrai. Et en fait, tu t'en es servi pour faire le guignol dans les 2-3 premières heures. Et du coup, les 3 heures suivantes, patatras. Alors, ça m'a vexé, dans un premier temps. Tu t'investis à l'entraînement, en plus. Alors derrière, il a fait beau, mais le mois de novembre, il était particulièrement pluvieux. Il y avait des séances qui étaient vraiment très désagréables. Donc, voilà, je me suis fait cette réflexion. Puis j'ai dit à Patrick, écoute, voilà, je pense que là, je tourne un peu en rond sur ces séances. Ce qui est le cas de le dire, hein, puisque je les faisais au stade. Attention, vanne de speaker, vous étiez peut-être pas prêts. Je lui dis, ouais, je tourne un peu en rond sur ces séances, à mon avis, c'est pas pertinent, on va pas développer grand-chose de plus. Par contre, je pense que c'est bien de les faire et de les refaire. Et là, Patrick a été un peu de mon avis, parce que je lui avais proposé un 10 km, enfin, je lui avais proposé 3 10 km, je lui avais proposé un semi-marathon, tout ça, puis il m'avait calmé, il m'avait dit, non, tu feras pas tout ça en février-mars, c'est quand même, c'est trop de plat, quoi, à un moment donné. Et il m'a dit, par contre, ouais, on va continuer à t'envoyer au club ou à t'envoyer faire des séances à plat, mais tu vas y aller avec de la fatigue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec de la fatigue? Donc, je me suis présenté des fois au club d'athlétisme en ayant fait le matin 3 heures de ski de fond. Je me suis présenté au club d'athlétisme en ayant fait la veille 3 heures, 35 km et 1000 mètres de dénivelé en trail. Voilà, je m'y suis présenté 2 jours après avoir fait un 50 bornes en trail, etc., etc. Donc j'arrivais au club avec des jambes entamées, avec un cardio un peu pas terrible, des courbatures, etc., etc. Et en fait, je me servais du groupe pour que mentalement, j'ai absolument aucune charge. C'est-à-dire que je me mettais derrière. Alors ceux qui couraient à mes allures, c'était un cadet et un junior là, qui ont fait des bonnes prestations d'ailleurs au France de Cross. Donc je me mettais derrière mon cadet et mon junior, Noé et Benjamin, et j'attendais de mourir en gros. Donc si la séance était inférieure à 800 mètres, ils me faisaient sauter sans trop de difficulté. Par contre, si on était à 800 mètres, j'arrivais à tenir avec eux. Donc c'était sympa, et on a fait tout ça comme ça. Et finalement, cette réflexion, elle m'a fait penser à Rocky Balboa. Donc Rocky Balboa, c'est le personnage, mais c'est surtout le titre du film qui est sorti en 2006. Si on prend les numéros, c'est le sixième. Rocky Balboa, c'est le sixième, avec bien sûr notre père vénéré, Sylvester Stallone. Et à un moment, dans Rocky Balboa, donc dans le 6, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je sais qu'il y a des criminels sans doute parmi vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans le numéro 6, Rocky est vieux, hein, bien sûr, il a raccroché les gants, Et il y a toute une histoire pour qu'il retrouve sa licence de boxe et qu'il mette une branlée au nouveau champion local, là, parce qu'il s'était foutu de sa gueule, ou je sais plus ce qu'il y a eu. Et donc, il va revenir voir son entraîneur, donc c'est, je sais plus ce que c'est son nom, c'était le noir qui entraînait Apollo Creed, avant qu'Apollo meure au début du 4, de Rocky 4, et qu'il entraîne Rocky dans Rocky 4. Donc il retourne voir cet entraîneur, qui est vieux lui aussi, et Rocky, tout vieux, qui va combattre donc la jeunesse, le nouveau champion du monde. Et donc, l'entraîneur, à un moment donné, ils sont dans... Je sais même plus où ils sont, dans un cabanon, là, je sais pas où ils sont. Il lui dit, bon, écoute Rocky, pour battre ce mec, il faut être rapide. Tu ne l'es pas. Tes genoux ne supportent plus le moindre choc, donc mollo sur le jogging. T'as de l'arthrite, des dépôts de calcium dans presque toutes les articulations... Donc le sparring, on oublie. Donc on va pas faire compliqué. La solution, la voilà. Pure force de frappe. Cheval vapeur. Puissance d'impact. Des coups de massue à ébranler les murs. Du bourre-pif énorme à le dérouiller sur cette génération. Quand tu le cogneras, il faudra qu'il ait l'impression d'avoir voulu faire la bise à un train. On va lui fabriquer des missiles à hématomes. Voilà. Alors, bon, là je suis pas tout à fait sûr de ma traduction, mais... J'arrivais pas à retrouver la petite vidéo. Alors, si quelqu'un a la vidéo de ce passage de Rocky Balboa, ah mais envoyez-le moi parce que je vais me le passer en boucle tous les jours. Ça va être ma petite phrase religieuse. Donc voilà, en gros, Rocky met tous ses défauts de côté et va bosser uniquement sur son point fort. Et là, bah, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec Patrick au fil de l'hiver. On s'est dit, bah, finalement, développer la vitesse, c'est bien gentil, mais... Est-ce qu'à un moment donné, je vais être capable de rivaliser avec Jim Wamsley? Le mec, il court en moins de 30 minutes au 10 000, il court en 1h03 au semi-marathon, et cet hiver, sur les skis de rando, il a montré à tout le monde que s'il fallait faire 20 minutes d'effort, il était largement au-dessus des autres. Puisqu'il a battu quelques athlètes qui étaient nés sur les skis, voilà, Jim, ça fait 3 mois qu'il s'est mis au ski, et il les a défoncés sur des montées, donc bon, c'est un peu... J'imagine qu'ils ont ressenti un peu de honte, mais bon. Donc voilà comment on a réorienté en fait en cours de route l'entraînement pour finalement développer la qualité qui peut me convenir, c'est-à-dire courir sur fatigue. Parce que le profil, alors on y reviendra sur le profil dans un autre podcast, mais le profil grossièrement, là je vais juste l'aborder vraiment très vite, il y a 100 km et 4500 mètres de dénivelé au début, donc plutôt montagneux mais pas extrême. Après je dis quand même montagneux parce qu'à un moment donné on monte pendant 1300 mètres de dénivelé, et à un moment donné, on descend 1000 mètres. Donc, on reste quand même sur quelque chose d'assez montagne. Je vais d'ailleurs me servir des bâtons. Et par contre, derrière, vous avez 65 km et 2000 mètres de dénivelé. Donc là, c'est assez roulant. D'autant plus que c'est jamais raide. Donc, il faudra courir tout le temps. Et il va falloir courir malgré une douzaine d'heures d'effort avant. D'où le courir sur fatigue. Et là, en fait, si vous courez à 10, 11, 12, ou bon, ça j'y crois pas trop, mais 13 km/h, vous allez faire une sacrée différence. Et pourtant, c'est infime. 10, 11, 12 et 13 km/h. Quand vous allez courir sur du plat, en fait, à des moments vous êtes à 12, à des moments vous êtes à 11, à des moments vous êtes à 10, parce que vous réfléchissez pas, vous laissez faire l'allure. Et là, ça va être un peu différent, en fait, il va falloir vraiment se concentrer chaque toutes les minutes, toutes les 5 minutes pour maintenir, par exemple, maintenir un 12 km/h, malgré une fatigue, des tiraillements. Donc on a bossé là-dessus, c'est-à-dire que je suis allé faire toutes mes séances de qualité à plat en étant un petit peu entamé pour tenter, malgré tout, de maintenir mes allures plutôt que de chercher sans arrêt à battre mes records sur les séances de VMA. Voilà, en gros, j'y allais très détendu en me disant, bah voilà, j'ai juste à faire comme la dernière fois. Donc mentalement, c'est pas très dur parce que du coup, je me mets derrière les mecs et j'attends que ça passe. Mais par contre, physiquement, c'est un petit peu difficile parce que par rapport à la dernière fois, bah j'ai fait plus de sport avant, etc. etc. Vous avez compris le principe de la fatigue. Donc voilà la stratégie qu'on a mis au point avec le coach Patrick Bringer, boucher auvergnat. Et cette stratégie, ben, je ne l'ai pas appliquée au trail de Vulcain, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que du coup, je me suis un petit peu raté. Donc le trail du Vulcain, bon, ça m'avait énervé, parce que la semaine avant, J'ai eu un déplacement pour Altra qui a été, bah, comme chaque déplacement, hein, sur le papier, on te dit que c'est comme ci, comme ça. Et puis, le jour J, en fait, c'est beaucoup plus de routes, beaucoup plus de sollicitations. Voilà, c'est un petit peu comme quand je vais animer une course. Là, par exemple, je vais au championnat de France. On s'est fait un petit peu baiser la gueule dans le sens où, bah voilà, je devais animer 2 jours de course. Au final, je pars le jeudi midi, je reviens lundi à 14-15h. Voilà, on dort dans un gîte, il est à 3-4 bornes du départ, on peut y aller en voiture, mais on est obligé d'y aller à deux parce qu'on a covoituré pour y aller, donc en fait on va covoiturer tout le temps, donc les périodes de repos, finalement on se les roule et on se les met au-dessus de l'oreille en attendant, bon, plusieurs choses, finalement faut amener sa bouffe pour 4 jours, c'est plus un dortoir qu'autre chose, donc voilà, s'il y a des bénévoles qui doivent travailler pendant la nuit, bah ils vont me réveiller et complètement niquer mon sommeil, donc voilà. On est loin d'un petit hôtel confortable en centre-ville. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je m'y attendais pas forcément, mais bon, tant pis, on va le faire. Et donc voilà, c'était un petit peu ça avant le Vulcain aussi, avec Altra. Mais évidemment, toutes ces sollicitations n'auront plus lieu d'être dans les 2-3 dernières semaines avant Istria, et ça, c'est tant mieux. C'est aussi pour ça qu'elles ont lieu maintenant, hein. C'est parce qu'à un moment donné, il faut bien gagner l'argent pour pouvoir vivre dessus après. Si on le gagne jamais, c'est compliqué. Donc, à Istria, j'y suis allé avec un peu de fatigue, au Vulcain, j'avais le bassin bloqué, etc. Donc c'était un peu embêtant, et du coup, j'ai livré une mauvaise prestation. En plus, j'étais un peu craintif sur l'allure. Voilà, vous l'avez lu, hein, dans les comptes rendus, c'était il y a une semaine et demie. Non, c'était la semaine dernière, d'ailleurs. Je me suis fait tromper en fait par un Clément Desilles qui est parti beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. J'ai pas, une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai pas eu envie de lâcher la tête de course parce que derrière il y avait personne. Je me suis dit, mais après, du coup, je serai tout seul pour faire l'allure. Et finalement, tout ce doute, toutes ces petites erreurs vont me servir pour Istria puisque du coup, j'ai parfaitement compris, j'ai parfaitement acté le truc. J'ai pris, alors ça, on y reviendra aussi dans un autre podcast, mais je vais noter les temps de passage de Robert Heinal pour les estimer, voir si je les copie ou si je les ralentis volontairement en début de course. Voilà, je vais voir comment je fais. Je rappelle que Robert a fait 18h24 l'an dernier et moi, j'aimerais bien faire 19h. Voilà, si je fais un tout petit peu moins de 19h, je serais vraiment content. Puis 19h, bah, voilà, ça suffira à mon bonheur. Je pense que c'est déjà bien. Ça fait une cotation à 830, je crois, à peu près. Donc, voilà. Et donc, je fais un second rappel. Si vous avez l'enregistrement, hein, de Rocky Balboa, je suis preneur là sur la quand son entraîneur lui parle. Alors, sinon, deuxième partie du podcast. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh bien, je suis allé m'entraîner un petit peu tôt ce matin avec mon ami Julien Chaurier. Il était 8h15, je crois, quand on est parti de la maison, parce que Julien avait rendez-vous à Annecy, donc voilà, il pouvait pas partir plus tard, et il avait une séance à faire, typée marathon, donc sa séance c'était 1600 mètres à 3 minutes 22 au kilo, 1 minute 30 de récup, 1200 mètres à 3,17 au kilo, 1 minute 30 de récup, 800 mètres à 2,55 au kilo, 1 minute 30 de récup, et il répétait ça 3 fois. Moi, j'avais pas ça à faire. J'avais 2 heures avec 4 fois 5 km à SV1, un petit peu en dessous même, donc pour moi, c'était 4 fois 5 km à 14 km/h, donc 4,17 au kilo. Alors, ça, évidemment, j'aurais pu la faire tout seul, tu vois, cette séance, mais je me suis dit, c'est un peu dommage, il y a Julien qui fait sa séance, moi je fais ma séance, on va tous les deux être comme des cons sur la piste cyclable, autant faire ensemble. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les blocs derrière Julien, évidemment pas à ses allures, parce que moi j'avais la musculation hier, je pouvais pas allonger autant la foulée, mais du coup je me suis mis à 3,45 au kilo, et les 3 blocs ça m'a fait à peu près 3 fois 5 km, parce que du coup je prenais pas vraiment la minute 30 de récupération, je prenais que 1 minute, parce qu'en 30 secondes je revenais sur Julien, et après on faisait une minute de récup ensemble. Du coup ça a à peu près correspondu. Bon, je me suis perdu là. Ça correspond à peu près à 3 fois 5 km, un poil plus rapide que les 4 que je devais faire. Et au moins, c'était un peu plus sympa parce que bah, les prochaines semaines, il y a des séances que je ferai tout seul, un peu longues, tu vois, de 2, 3, 4 heures. Donc, c'est un peu embêtant. Tu vois, au bout d'un moment, ça pèse un peu. Donc, c'était bien de pouvoir se décharger. Et puis, du coup, pour pallier aux 40 minutes qui manquaient, entre guillemets, eh bien, je pourrais ce soir, parce que je vais covoiturer avec Fred Bousseau pour descendre à Millau. Enfin, descendre ou monter. Et comme ça, ce soir, sitôt sorti de la voiture, on pose nos affaires au gîte et on fera 35 minutes de footing, voilà, juste pour aller voir un peu le départ et revenir. Et comme ça, derrière, les petits massages, les petits automassages, les petits étirements, le repas, et on aura une belle soirée dédiée à la récupération. Vu que vendredi, mon animation se résume, à 1h30 de présentation de la course et des favoris, mais après, je dois assister, parce qu'encore une fois, on va faire une voiture pour 5, donc je dois assister à la conférence sur la lutte antidopage. Bon, ce sera l'occasion de se marrer un petit peu, je pense. Je dois assister au film d'Anne-Lise Séguret. C'est vrai que c'est toujours sympa de visualiser le film, mais si j'aurais pu être quand même dans ma chambre tranquille à récupérer, j'aurais préféré. Parce que là, du coup, le film va finir à 21h30. Derrière, ça va vouloir manger au restaurant. Derrière, il y a 40 minutes de route pour rentrer au gîte. Voilà, je vous fais pas un dessin. On n'est pas couché avant 23h30. Ça va vite. Non, mais ça va vite. Et ouais, parce que les mecs te disent tout le temps. Ouais, mais c'est juste ça. Bon, bah une fois que tout a été mis bout à bout, vous partez du logement, il est 13h30. Vous revenez au logement, il est 23h30. Et 23h30 moins 13h30 égale 10h. Voilà. Pendant 10 heures, vous avez été sollicité et vous n'avez pas pu faire vos trucs perso. Donc, bah oui, c'est un petit peu 10 heures de travail finalement. Voilà, ça dépend comment on compte, hein, toujours. Mais je pense que les gens qui sont au travail... Alors, anecdote, lundi matin, je me rends dans un magasin spécialisé en tuyauterie puisqu'il me fallait un déboucheur pour des canalisations, mais un truc costaud, tu vois, le pur desktop bête qu'on te vend à Leclerc ne marchait pas. Donc le plombier me oriente vers un produit type professionnel et j'arrive pour demander des renseignements parce que je savais pas où était cette saloperie là, je la trouvais pas. J'avais 3 vendeurs et une caissière face à moi. Ils étaient en train de discuter en buvant un café et ils ont mis 5 minutes avant qu'il y en ait un qui se retourne vers moi et qui me demande si j'avais besoin d'un renseignement. Pendant 5 minutes, ils ont discuté en me jetant des coups d'œil. J'étais à 1 mètre. J'attendais patiemment. Bon, je voulais pas les couper, hein. Je suis pas non plus le roi. Mais ils savaient tous que j'étais là. Ils m'ont vu. Mais ils ont continué tranquillement en discussion pendant 5 minutes. Et après, il y en a un qui s'est retourné. Il m'a dit « Est-ce que vous avez besoin d'un renseignement ?» Et là, je lui ai répondu comme ça, en 2 mots. « Ben oui. » Non, je voulais écouter votre conversation. Je la trouvais très intéressante. Donc voilà, est-ce qu'on leur décompte ça du temps de travail? Je ne sais pas. Donc c'est un peu ça, voilà, qui m'attend demain, 10 heures de présentiel, quoi, on va dire. Écoute, tant pis. Donc voilà pour ce matin. Alors, est-ce que j'étais satisfait de mon entraînement à plat? Ça me tirait partout, là, il faut que je regarde. J'ai les ischio-jambiers qui me tirent énormément. C'est très anormal. Je pense que je me suis coincé un truc quand j'ai voulu enchaîner 30 Grand Canaria et 2 derniers survivants. Parce que ça fait depuis l'an dernier que j'ai ces douleurs en haut des ischio-jambiers, dans les fessiers et sur les côtés des fessiers. J'ai l'impression que le truc, dès que je suis fatigué, se cimente. Voilà, j'ai l'impression d'avoir les fesses dans du ciment. Du coup, c'est chiant. Et malgré mes automassages, malgré mes étirements, ça ne passe pas. Donc, il n'y a qu'une seule solution quand c'est comme ça, c'est que je fais fausse route. Donc il faut que je me documente, que je regarde. Là, on m'a prêté le livre de Major Mouvement, je vais aller voir le chapitre, sitôt rentré du trail de la Cité de Pierre. Je vais aller voir ce chapitre et voir s'il n'y a pas des choses plus pertinentes à faire que ce que je fais déjà, parce que quand même, c'est bizarre, il n'y a que cet endroit que ça coince, tu vois. J'ai pas mal au mollet, j'ai pas mal au quadriceps, mais c'est voilà, sous le bassin, là, c'est très emmerdant. Bon, on va voir ça gentiment. Que dire de plus pour le podcast du jour? Eh bien, pas grand-chose. Écoutez, je vous poste ça et je vais tailler la route, comme on dit. C'est donc 5h30 où je serai dans un véhicule où je ne pourrai rien faire à part utiliser la batterie de mon smartphone pour visionner des trucs complètement débiles et sans intérêt à la fois sur Instagram et Twitter. Je me livrerai à des discussions avec Fred, peut-être vous enregistrera-t-on quelque chose. Mais voilà, du temps perdu cet après-midi qui n'est pas facturé, hein, parce que on ne facture pas le temps qu'on passe en voiture aux orgas. Je me pose la question quand même s'il ne faudrait pas le faire, parce que ça me casse les couilles quand même. Mais voilà, c'est parti, direction la cité de Pierre. Je sais qu'on va retrouver quelques petits patriotes sur place qui font la course. Et puis bon, quand même, c'est vrai que... pour parler uniquement du job, c'est quand même intéressant de commenter le championnat de France de trail quand il y a quasiment tous les favoris. Ça met en valeur quand même, plutôt que de commenter des trails à la saucisse. C'est vrai que voilà, c'est un peu la récompense, même si on gagne autant d'argent en commentant un trail lambda que le championnat de France. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu le côté vitrine du truc. Voilà, moi je n'y adhère pas, mais pourquoi pas. Allez, on se retrouve là-bas et bonne écoute. À demain pour le J-28. Ah oui, ne vous privez pas, hein, au cours de ces 30 jours, ne vous privez pas si vous avez une petite question. Voilà, moi je les note sur ma feuille, si c'est pertinent, si ça rentre dans ce que j'ai prévu de parler, etc. J'y traiterai avec grand plaisir. Salut.